pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Dimanche 22 janvier 2017, que s'est-il passé à Béziers ? Béziers, ses 75 000 habitants, son taux de chômage de plus de 20%, ses 33% de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté, avec un revenu mensuel inférieur à 840 euros. Béziers et heureusement son maire d'extrême droite, Robert Ménard, très focalisé sur la propreté des trottoirs, les crachats qu'il juge officiellement dégoûtants, omniprésents, super communicants de toutes les foires, fêtes et inaugurations. Robert Ménard qui, pour lutter contre la pauvreté, a équipé la police municipale d'un nouvel ami, Dixit, un pistolet Beretta. Robert Ménard qui a avoué publiquement tenir un fichier des élèves de confession musulmane, établit le fichier à partir de la consonance des prénoms des enfants. Que s'est-il donc passé dimanche 22 janvier à Béziers ? Dans le reste de la France, dimanche, un certain nombre de personnes, difficiles à dénombrer apparemment, votaient au premier tour des primaires de la gauche. À Béziers, on imagine bien que le maire n'a pas payé 1 euro d'adhésion aux valeurs de la gauche pour pouvoir voter. On notera au passage qu'à droite, c'était 2 euros, mais j'ignore pourquoi cette différence de tarif. À Béziers, par contre, dimanche, c'est la fête de la truffe. Robert Ménard s'y montre un long moment, vient serrer les mains de ses électeurs ravis d'avoir un maire si actif. Pendant ce temps, ils étaient tout de même 1314 bitéroises et bitérois à s'être rendus dans les urnes avant, après ou à la place de la fête de la truffe. Parmi eux, 525 ont voté pour Manuel Valls, 430 pour Benoît Hamon, 227 pour Montebourg et des poussières pour les autres. Dimanche 22 janvier, c'est le jour que nous avons choisi pour nous inviter à la table d'une famille de Béziers, un déjeuner avec 6 personnes, pas tous d'accord ou tous pas d'accord. Nous sommes chez Sophia et Arnaud, un couple d'une petite trentaine d'années. Ils ont invité les parents de Sophia, Marie-Claude et Franck, et un couple d'amis de la famille entre deux générations, Marc et Sophie. C'est le deuxième de nos déjeuners de famille en période très électorale, empoignade et engueulade, du fond et des petits plats. Un récit du dimanche par Rémi Douatte en partenariat avec Libération.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Bonjour.
Bonjour.
Entrez, entrez.
Merci.
Merci. Donc ma maman,
bonjour.
Bonjour.
Franck.
Bonjour.
Et ma femme.
On a été voté avant de venir, comme ça c'est fait.
Mais on m'a dit que vous aviez eu la queue, c'est ça?
Oui, on a eu la queue, c'est bon signe.
Ah oui,
oui, on a eu du monde aussi.
Il y avait une dizaine de personnes.
Ah, une dizaine de personnes. Ah, c'est ça que vous appelez du monde.
Non, non.
Les politiques de...
On lance la cuisson, ça crépite. C'est nous qui accueillons pour le repas du midi nos amis Marc et Sophie et ma famille. Je suis en train de préparer des koftés, c'est une spécialité irakienne à base de viande et d'oignons, de cumin, curry, avec du riz basmati qui ira accompagner tout ça pour le repas.
Et pourquoi irakien ?
Pourquoi irakien ? Parce que mon père est kurde irakien, un réfugié politique depuis 25 ans en France. Il a eu le statut de réfugié politique et dans la suite, la nationalité française. Et du coup, c'est un petit clin d'œil à mes origines irakiennes et à ma culture double. Comme quoi, on peut très bien gérer la double identité, n'en déplaise à Monsieur Ménard. Donc moi, je suis chargée de concertation. Je travaille dans le secteur de la démocratie participative depuis bientôt 4 ans. La première fois que j'ai voté, c'était pour le parti Europe Écologie Les Verts. Et pour la petite anecdote, c'était rigolo parce que j'étais suppléante du candidat écolo aux élections cantonales. Donc la première fois que j'ai voté, c'était pour moi. Et je crois que c'est assez rare, en fait, de voter pour soi la première fois, surtout que j'avais tout juste 18 ans. Et là, cet après-midi, je vais me rendre aux primaires pour voter Benoît Hamon. Mais j'hésite encore, mais je pense vraiment que si Benoît Hamon ne passe pas, et il y a quand même de forts doutes pour qu'il passe pas, notamment au second tour, j'irai voter pour Mélenchon.
Je m'appelle Arnaud, et donc on est ici chez moi, à Béziers, avec ma femme Sophia.
Donc moi, je suis chargé d'affaires dans l'industrie, hein, donc je m'occupe d'un portefeuille client d'à peu près 400 personnes sur la région Languedoc-Roussillon.
Alors aujourd'hui, on vote pour les primaires socialistes. Vous avez voté, vous ?
Oui, on va voter donc cet après-midi avec ma compagne. Je crois encore au pouvoir de faire changer les choses. Oui, oui, oui.
On va passer à la table ?
Vis-à-vis de Merkel. Moi, je suis même pas déçue d'Hollande, parce que je n'y ai jamais cru. J'ai toujours pensé que c'était un nul. Il a été élu par défaut. En réalité, le candidat qui devait gagner, c'était Strauss-Kahn avec toutes ses limites. Strauss-Kahn a perdu sur des histoires de confusion entre la vie publique et la vie privée. Alors, on peut comprendre que sa façon d'agir est gênée, mais au moins, Strauss-Kahn avait le mérite de l'expertise et de la compétence au niveau économique, ce qui a manqué complètement au gouvernement d'Hollande. Ça a été un gouvernement qui s'est laissé faire et donc résultat, la politique économique de la France a été la politique économique de l'Europe ou de Merkel ou de tout ce qu'on veut. Et donc en fait, moi, j'ai même pas été déçue. Je savais d'avance que ce serait un minable. Et il a vérifié pendant 5 ans. Et je suis même pas à croire qu'il est sauvé par l'histoire du mariage pour tous. Ça me paraît pas une mesure décisive. Si ça avait pas été Hollande, même Fillon, moi j'ai entendu sur le thème, il a dit rien ne peut être remis en cause sur les questions sociétales. C'est pas ça les vraies décisions. Les vraies décisions, elles doivent être économiques. Et là-dessus, Hollande a été pire que tout. Mais c'est issu. C'était le minable du Parti Socialiste qui a géré un parti où il y avait des gens plus intelligents que lui qui se sont dit « donnons le pouvoir à celui-là et comme ça on sera tranquille ». Finalement, on a là le résultat d'un système épuisé au niveau de son fonctionnement et je crois que les primaires sont une mauvaise invention. On les entend pendant un quart d'heure, 7 à 30 se disputer, on n'a même plus le temps de les entendre, alors qu'avant on avait au moins le face-à-face.
Tu l'as pas regardé, parce que c'est 1 minute par personne.
Oui, c'est ça, c'est ça. Ça dure un temps fou, personne n'écoute jusqu'au bout, et à la fin, qu'est-ce que tu as ? Tu as des petites idées que tu reconstitues en fonction de ce que tu peux penser des événements. Mais les primaires, c'est une catastrophe.
Alors moi,
c'est l'américanisation de la politique.
Moi, ce que je rajouterais sur Hollande, c'est qu'il a réduit la gauche. Qui avait l'idée de gauche.
Moi, je m'appelle Sophie, je suis prof à la fac, j'enseigne la communication et d'ailleurs, dans les cours, j'enseigne également la communication politique. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse de façon directe. J'ai voté pour la première fois en 88. J'avais tout juste l'âge. J'ai voté, donc, j'ai voté Barre au premier tour.
Raymond Barre, donc centriste à l'époque.
Voilà, parce que j'étais fort influencée par mon milieu familial. Je n'avais pas d'idée très précise. Donc, je suis mon père. Et donc, après avoir voté comme mon père avait dans la tête que je vote, j'ai fait pareil avec mes petits copains, jusqu'à ce que je continue à le faire gentiment avec mon mari.
Et aujourd'hui, vous continuez de voter comme votre compagnon ?
Ben oui. Après tout, la politique aujourd'hui est tellement décalée par rapport à la réalité que si ça me permet d'avoir des rapports sereins avec mon environnement proche, je ne peux pas dire qu'une seule fois, j'ai voté pour quelqu'un en me disant « Oh là là, il est vraiment extraordinaire, je crois en ce qu'il va faire. » Hollande sera le pire, avant que la Ve République finisse par évoluer vers autre chose. Parce qu'il ressemble, je vais te dire, Hollande, si tu dois le résumer, il a la souplesse du menhir et l'énergie du macaroni cuit. C'est-à-dire que c'est un type qui est à la fois raide et mou. C'était un véritable cauchemar au niveau d'un homme politique. Il donnait l'impression, il disait « Oh, il est mou, il va s'ouvrir !» Mais non, comme il est mou, il a peur. Donc il se ferme. Donc il est incapable de prendre les décisions quand il doit les prendre. Et en plus de ça, il est raide, c'est-à-dire qu'il ne veut entendre qu'une seule voix. Et il a orchestré autour de lui des gens qui pensaient comme lui. Parce qu'il est terrifié par les gens qui ont des idées nouvelles. C'est une catastrophe, Hollande.
Ouais, mais
et c'est une...
Sarkozy.
Non, moi je tiens à dire que Hollande est pire que Sarkozy. Hollande est pire que Sarkozy. Parce que Sarkozy était notre ennemi de classe. On pouvait le détester.
Je préfère et de loin quand même Hollande à Sarkozy. Sarkozy, pour moi, c'est un pur populiste, Sarkozy. Pour moi.
On a eu Hollande uniquement à cause de Sarkozy. On a eu Hollande parce qu'il est arrivé en disant « Je suis l'homme normal. Comme je suis un mou, je ne suis pas un hystérique. » Donc on a voté pour Hollande par dégoût pour Sarkozy.
Oui.
Hollande est le sale coup que nous a fait Sarkozy.
Tu sais comment je l'appelais, moi, Sarkozy, Zébulon. Sarkozy, c'était Zébulon.
Sarkozy était un ennemi à notre cause. Le détester, c'était naturel. Non, mais... Hollande a été un traître à notre cause. Hollande, Sarkozy, on a dû abandonner tous nos rêves, tous les uns après les autres.
Mais Sarkozy, c'est plus qu'un ennemi. Il a révélé tout ce qu'il peut y avoir de pire en populisme.
Mais oui, et Hollande. Et Hollande, qu'est-ce que c'est, si ce n'est que... Mais Hollande, tu sais quoi? Hollande va nous valoir 20 ans. 20 ans de droite. Parce que tu considères que Macron, c'est pas la droite?
Non.
Eh bien, je suis désolée. On va avoir 20 ans de droite.
Ah, il va nous valoir 5 ans. Oh, c'est ça. C'est bien
plus que ça. Tu vas voir la tête.
Je m'appelle Marie-Claude, j'ai 55 ans, je suis psychologue et enseignante à la fois. J'ai commencé à militer au Parti écologiste pendant environ une quinzaine d'années. Et puis je me suis séparée de ce parti quand il s'est transformé en Europe Écologie Les Verts. Et à présent, donc, j'ai gardé mes convictions de gauche tout en étant loin des logiques de parti.
Vous êtes bien à Béziers ?
Il ne faut pas me poser cette question. J'étais bien à Béziers avant que M. Ménard soit élu. Béziers a été une très belle ville à un moment donné, donc agréable à vivre, avec une douceur de vivre, etc. Depuis que M. Ménard est arrivé, beaucoup de gens se réjouissent parce que la ville est très propre. Alors effectivement, il n'y a plus de crottes de chiens, il n'y a plus de jeunes voyous. Et bon, moi j'ai pratiquement tous mes amis qui sont de vieux militants gauchistes et beaucoup de vieux militants gauchistes se trouvent en souffrance sur cette ville de Béziers. C'est très difficile de garder l'espérance parce qu'on a l'impression que le Front National étant installé s'ancre de plus en plus profondément et convainc malgré tout de plus en plus de gens.
Qu'est-ce que vous avez voté, vous, la première fois que vous avez voté?
Alors, j'étais jeune et très engagée et j'ai voté Arlette Laguiller pour la colère. Donc là, c'était vraiment sous la colère. Et ensuite, j'ai plutôt milité pour l'environnement parce qu'il me semblait que c'était le sujet, le grand oublié, finalement, hein, des élections. Et je pense que les écologistes ont fait un véritable travail de fond, puisque je me réjouis aujourd'hui quand j'entends aux primaires, finalement, de gauche, tous les candidats parler d'écologie, ce qui n'était pas le cas 20 ans en arrière, hein, loin de là. Bon, moi, je travaille en plus, je suis psychologue à Pôle emploi, donc je suis bien placée pour voir tous les dégâts faits par le chômage et par la perte d'emploi des individus. Et pour moi, le grand combat à mener, c'est vraiment contre l'ultralibéralisme aujourd'hui. Et c'est pour cette raison-là que j'ai voté ce matin, Benoît.
Ah, mais c'était très bien.
Oui, non, mais ça, c'est un autre débat. Mais qui va voter Mélenchon?
Pas moi.
Pas moi.
Ce qu'il est.
Il devient mégalo.
Il a
mégalo.
Chanté partout qu'il allait faire
ce qu'il
allait
faire. Non, il devient mégalo, cet homme. Il sait se servir des techniques de communication modernes, les gars.
Le mégalo. C'est le seul qui parle aux jeunes.
Alors, c'est le premier homme politique suivi sur YouTube. Est-ce que tu te rends compte du truc?
Il est mégalo.
Mais non, c'est pas être mégalo. C'est qu'aujourd'hui... Oui, mais bon, à un moment donné, le plus proche politiquement, par exemple, de Benoît Hamon en termes de programme, ça reste lui. Et si on oublie la personne et que l'on se consacre au programme, il a quand même bossé, beaucoup plus que les candidats PS qui se sont vraiment mis en ordre de bataille dans les derniers 6 mois. Ils ont bossé, eh ben, il travaille, il a travaillé avec des économistes, il a beaucoup revu sa position sur l'écologie. Aujourd'hui, il parle d'écologie, il parle de revenu universel. Donc je me dis que le plus proche aujourd'hui de Benoît Hamon, ça reste Mélenchon. Ça reste le plus proche.
Entièrement d'accord en termes de programme par rapport à toi et aussi d'accord avec toi, Arnaud, quand tu dis qu'il a beaucoup travaillé. Sauf qu'au niveau personnalité, je suis désolée, nous, on a suivi les 3 débats des primaires. Benoît Hamon est quand même quelqu'un de très fin d'esprit, avec beaucoup d'humour. Mélenchon, depuis qu'il a arrêté de boire, parce qu'il avait quand même le faciès d'un alcoolique pendant des années, mais il faut... Non, Moi, je ne m'affiche pas parce que, en tant que... Attends, choses, non, ce n'est pas du jugement de valeur. J'observe en tant que...
Pourquoi je le précise alors ?
Alors, laisse-moi parler, Arnaud. En tant que psychologue, j'observe son comportement, c'est-à-dire que depuis qu'il a arrêté de boire, il se sent en toute puissance. Et là, depuis qu'il a des fervents adeptes, parce qu'on dirait effectivement presque un mouvement sectaire de la, chez certains, il est dans la mégalomanie la plus totale. Et ça, je ne peux pas l'accepter.
Donc, tu voteras qui ?
Macron.
Tu voteras Macron ?
Oui. Quoi ?
Non.
Oui.
Non,
tu vas voter qui ?
Je préfère voter Macron que Mélenchon.
Ah, non.
C'est fou, ça.
C'est fou. C'est extraordinaire.
Mais je vais te pousser les escaliers,
c'est pas possible. Tu vas pas voter Macron.
Ça, on s'aperçoit qu'en fait...
Moi, je suis très choquée parce que je supporte pas Emmanuel Macron. À la limite, je peux comprendre qu'on vote Montebourg. Par contre, Emmanuel Macron, pour moi, je trouve qu'on est loin des idées de gauche aujourd'hui avec Macron.
Mais Mitterrand,
je suis entièrement d'accord avec toi, mais je ne suis pas prête aujourd'hui en vieillissant, puisque tu m'as connue. Je veux dire, premier vote, Arlette Laguille. Alors effectivement, ça peut te surprendre, ma chérie, quand je dis aujourd'hui, je ne voterai pas Mélenchon. Mais je crois que justement, le parcours du vieillissement, c'est aussi le parcours de la sagesse et de la raison. Et que d'aller vers des extrêmes aujourd'hui, je ne suis...
Si, c'est vrai.
C'est vrai. Je ne suis plus prête à aller vers des extrêmes aujourd'hui.
Mais je ne suis plus prête. J'avais 40 ans, ce que tu disais.
J'ai 55 ans. Arnaud, j'ai 55 ans aujourd'hui. Je vieillis.
Moi, ce que je trouve grave, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a Fillon, Mélenchon et Marine Le Pen qui disent tous que Poutine est un type formidable.
Ah.
Et alors là, on se dit, on est en France.
Oh là là.
D'accord, on peut être anti-américain. Mais moi, je suis moitié américain. Je trouve ça quand même. Présenter Poutine qui a... espèce de dictateur à l'ancien du KGB comme et Trump qui dit que c'est très bien Poutine. Et là, on va élire des gens à l'extrême gauche, à l'extrême droite ou Fillon qui trouvent que Poutine est un type très bien.
Exactement.
Alors là, moi, je trouve la République française.
Elle est
Merci Marc, parce que j'espère que là, enfin, Sophia et Arnaud vont vous entendre à vous. Parce que moi, ça fait des mois et des mois que je dis à Arnaud et Sophia, ne votez pas Mélenchon, parce que quelqu'un qui se dit pro-Poutine n'est pas respectable. Quand on voit comment Poutine s'est conduit, il a bombardé des convois humanitaires, il a une politique lamentable en termes de droits humains. Il y a 9 journalistes qui ont été assassinés à minimum depuis son pouvoir. Il est hors de question pour moi d'aller voter Mélenchon qui se dit pro-Poutine. Et ça, je leur ai dit, ça n'est pas possible.
Visiblement, quand même, les propos de Mélenchon ont été assez caricaturés sur le sujet. C'est en tout cas son axe de défense de dire « arrêtez de dire que je suis pro-Poutine ». Ce qu'il aurait dit, c'est que la situation en Syrie est quand même difficilement solvable et selon quoi il a raison. Et que c'est un peu plus compliqué que le mauvais Poutine. Et moi, je suis loin d'être pro-Poutine et pro-Assad, mais tous les supporters de Mélenchon me disent qu'ils nuancent son propos. Et après, la seconde chose, c'est sur le Macron FN. Moi, je ne me poserai quand même pas la question. Quoi, parce que je voterai Macron sûr et certain. Parce que moi, j'entends beaucoup le discours, il faut laisser Le Pen au pouvoir et puis ça va générer de la manifestation. Mais regardez à Béziers ce qui se passe. Je veux dire, le Front National est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce que ça fait ? Ça libère la parole. Ça libère le discours raciste.
Exactement.
Ça libère le Front National. C'est mais ça ne crée pas du tout de révolution.
Macron, c'est l'illusion. C'est l'illusion. Il ne fera jamais une politique contre ses copains.
Jamais.
Je n'y crois pas.
Moi, personnellement, si c'est Macron et le Front National au second tour, je ne refais pas comme j'avais fait une fois de voter Chirac pour éviter le Front National.
Macron, si c'est Fillon, mais
pas. Ou Fillon ou Macron, tu ne sais pas. Moi, dans tous les cas, je n'irai pas voter et je voterai blanc. Parce que je n'ai pas envie de me faire piéger une fois de plus comme je l'ai fait avec le vote Chirac. Là, c'est terminé.
Ah, mais voilà, c'était ça.
C'est terminé.
J'avais dit à Marc, il ne voulait pas aller jeter. Je n'ai pas voté Chirac, j'avais fait des pas.
Je m'appelle Marc De Velder et je suis prof d'histoire en lycée à Béziers. Donc j'ai 48 ans et je ne suis sur Béziers que depuis 2008. Donc moi c'est la première fois que je suis dans une ville qui vote Front National en majorité. Et donc c'est pas toujours facile. Par exemple j'enseigne en terminale les mémoires de la guerre d'Algérie. On a droit à des remarques quand même des fois de temps en temps des élèves ou d'autres personnes qui sont dures. J'ai même vu certains profs avec des réactions racistes en salle des profs. Moi, ça m'est arrivé en collège, qui me disait « Ah, vous avez choisi un bougnoul, Kader Arif, comme candidat au régional. » Et alors là, je me suis dit « Bah voilà, même chez les profs, il y a des gens d'extrême droite. c'est pas seulement quelques élèves. Forcément, s'il y a 47% de gens qui votent pour Ménard, il y a forcément des élèves qui ont des parents qui ont voté pour Ménard. Donc mon itinéraire politique, moi j'étais au MJS, Mouvement des Jeunesses Socialistes, je suis resté quelques années, et en gros j'ai milité au PS jusqu'en 97, et à l'époque de Jospin, il y avait des choses qui m'avaient déplu quand il a dit son programme n'est pas socialiste, etc. Et donc j'ai quitté le PS en 97, je suis revenu en 2002, et là, véritablement, depuis François Hollande, j'ai tout arrêté. Donc j'ai démissionné de toute vie politique. Bon, maintenant j'enseigne en prison, je crois à l'associatif. Mais j'ai vraiment pris du recul sur la côté syndical et politique, et en particulier politique quand même. Je pense que le Parti Socialiste est en fait en train de disparaître actuellement. Parce que si les sondages ont raison, il y a quand même Mélenchon, Macron devant. Et du coup, ce serait quand même la première fois dans l'histoire que le candidat officiel du Parti Socialiste arriverait qu'en cinquième position. Ce que j'ai jamais vécu jusque-là quand même. Alors les trois déceptions, moi il y a la priorité à la jeunesse, moi je trouve qu'il n'y a eu aucune priorité à la jeunesse pendant ces 5 ans, et qu'on a oublié. Il y a je lutterai contre la finance, et on a abdiqué sur la finance. Et la troisième chose, qu'on en parle pas beaucoup, mais que je trouve qui est parfaitement choquant avec un gouvernement socialiste, c'est qu'on a battu les records de vente d'armes. D'accord, on a ramené des sous dans ce pays, mais c'est pas socialiste du tout. Et on a vendu des rafales en Égypte. Et ça, je trouve que c'est choquant aussi, que c'est le quinquennat Hollande qui aura vendu le plus d'armes de toute l'histoire du XXe siècle. Et là-dessus, moi, personnellement, j'en suis presque à devenir gaulliste, et à me dire finalement, De Gaulle, au moins lui, il n'était pas à ce niveau-là, et qu'il se défendait contre les Américains, et qu'il portait une voix de la France. Et on n'a plus de voix de la France.
Hollande, c'est un technocrate. En gros, Hollande, il a géré le Parti Socialiste de très mauvaise façon, d'ailleurs. Il n'a pas indiqué, mais du tout, à long terme, des voies sociétales. Il a juste décidé de le mariage pour tous, des choses, des avancées, mais des avancées qui ne vont pas faire l'avenir à 10, 15, 20 ans de la France. On arrive à regretter De Gaulle, Pompidou, parce qu'ils ont lancé des grands travaux. Mais depuis Sarkozy, on a des gestionnaires, c'est-à-dire des gens qui gèrent le présent. On gère le présent, le court terme.
Vous êtes marrant de nous parler de Pompidou et de Gaulle, mais ouais. Moi, à 27 ans, Pompidou et de Gaulle, ça ne me parle pas du tout. Et je ne veux pas. Et ces grands projets d'infrastructure qui structurent, c'est fini. Parce que l'écologie fait que ces gros projets d'aménagement du territoire, on ne pourra plus les faire. Donc des grands projets structurants pour le territoire, moi, je n'y crois pas du tout. Des grands projets pour la société, c'est le revenu universel. C'est la légalisation du cannabis pour lutter contre 20 ans de répression. C'est ça. Et c'est pour ça que Mélenchon parle aux jeunes. C'est pas parce que les bons communicants, c'est aussi parce que c'est un des rares, au-delà de la personne, à avoir un projet un peu d'avenir, parce que les autres, encore une fois, sont sur des thématiques du passé. Du passé, le plein emploi, la croissance, le PIB, les relations internationales, la minima, la diplomatie entre copains, mais ça marche plus comme ça. On ne parle pas d'écologie, on ne parle pas de numérique. Attendez, le numérique est absent de ce débat. Quasiment.
Ce qui marche, c'est Macron-Mélenchon. Peut-être c'est un peu à part, mais Macron-Mélenchon, parce qu'il parle de la vie.
Toutes nos discussions sont vaines. On fait des discussions sur des gens dont on sait que de toute façon ils ne se retrouveront pas au second tour. On en est dans un tel état de désespoir qu'on dit qu'on va voter Macron pour certains. Et en réalité, il est grand temps de mettre en place de nouvelles institutions. Et par exemple, ce que font les Suisses qui sont en train de mettre en place un Sénat qui arrête les décisions anti-écolo. Et la question est la suivante, comment faire que le Sénat devienne une institution de l'avenir? Eh bien, on pratiquerait le même principe que pour les jurés d'assises. Les gens seraient tirés au sort, auraient le pouvoir de bloquer les décisions qui sont très mauvaises pour la poursuite de la vie sur Terre et pour l'écologie. Et les Suisses sont en train de réfléchir à ça.
Mais moi, c'est là que je suis pas d'accord. Faire un Sénat des gens tirés au sort, de droite, de gauche, d'extrême droite, de ce que tu veux, les gens votent par l'émotion. Ils réagissent aux faits divers par l'émotion. Mais Marie, c'est pas un engagement politique.
Moi, ma pire expérience avec les jeunes, c'est pendant un trimestre en éducation civique, j'ai bossé sur la peine de mort. Et à la fin, j'aurais demandé, alors maintenant qu'on a fait tout ce débat, qu'on a parlé des États-Unis, la France, la peine de mort, vous êtes pour quoi ? Il y en avait trois qui étaient contre la peine de mort, ils étaient tous pour.
Voilà.
En seconde.
Non.
À Béziers.
Oui.
27 pour la peine de mort. Et même certains qui me disent, parce qu'ils savent que j'ai cours en prison, me disent, mais la prison, c'est pas assez, il faut les torturer. Parce que la prison, c'est pas une punition, ils ont la télé, ils sont au chaud.
Ces gens-là vont voter dans une partie. Bah, ils vont voter par l'émotion. Mais
c'est faux. Si tu prends des gens, que tu les informes sur le sujet, et que tu leur dis tous les pour, les contre, et que tu fais un vrai boulot de pédagogie en expliquant les tenants, les aboutissants, les enjeux, crois-moi, les gens, ils reviennent très très vite sur leur position. Par contre, si tu prends comme le veulent les gens de droite, pourquoi les gens de droite adorent les référendums ? Parce que les référendums, c'est le scrutin de l'émotion. Par contre, si tu crées une chambre où que tu fais réfléchir les gens ensemble et que tu fais du dialogue construit, crois-moi, les opinions, elles changent.
Ça s'appelle la démocratie participative. Et je te garantis que ça marche. L'intelligence collective est impressionnante.
Je vous signale que c'est ce que veut faire Mélenchon avec son assemblée constituante de citoyens. L'idée, c'est d'avoir toujours l'Assemblée nationale qui vote les lois, mais de remplacer le Sénat par une chambre de citoyens qui serait plus ou moins tirée au sort et qui discuterait des grandes décisions de société.
Et puis il y a une autre idée, sans parler même d'ailleurs.
Ah,
moi je suis pas inquiète sur la marche du monde. Je pense qu'il ne s'agit même pas d'être volontariste. Ça va se faire naturellement parce que l'être humain, contrairement à ce qu'il pense, n'anticipe pas. Mais comme tout un nombre de problèmes vont se retrouver convergents au cours du XXIe siècle, à savoir la crise écologique, l'explosion de la population, on va devoir s'adapter. Et cette adaptation, elle ne va pas pouvoir se faire en gardant le modèle qu'on a. Donc j'ai même pas à m'inquiéter, je sais que le modèle du pur libéralisme basé sur la société de consommation va mourir et qu'on va se retrouver dans une autre situation, on sera moins nombreux sur Terre dans 200 ans, on vivra de façon différente et les événements vont nous porter vers quelque chose qui finalement sera un monde plus juste parce qu'on sera moins nombreux, parce qu'on devra affronter la question des ressources naturelles et tout ça finira par le triomphe de l'écologie, non pas parce que les gens le voudront, mais ça sera une nécessité. Ou alors, ça deviendra un cauchemar, mais j'imagine pas quand même que le temps du cauchemar arrivera. Donc voilà.
Mais moi aussi, je suis optimiste en même temps. C'est-à-dire que... Alors, pour Hollande...
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, un déjeuner de famille à Béziers, le deuxième épisode de notre série en partenariat avec le fameux quotidien Libération, un reportage de Rémi Douat réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci bien sûr à Sophia, à Arnaud, à Marie-Claude, à Franck, à Marc et à Sophie. Des commentaires, des réactions, des positions, des partages, des tweets, des followers, des retweets, c'est sur les réseaux sociaux. On vous y attend avec impatience. Nous avons une magnifique page Facebook et un compte Twitter non moins merveilleux. J'oubliais, c'est Sandrine Chaperon. Comment l'oublier, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et Melville Letellier, notre stagiaire du moment.